Bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Une demi-heure d'échange, de partage, de passion, d'idées de sortie et tout simplement de plaisir. Bonjour et bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Aujourd'hui, nous avons Emma à la technique, Valérie à l'animation et notre invité Jean-Michel Bérardi. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Jean-Michel, vous êtes né en Dordogne dans les années 1950. Docteur en pharmacie et aromathérapeute, vous avez exercé le métier de pharmacien pendant 25 ans à Tocane-Saint-Apre. Puis, dans les années 90, vous avez effectué différentes interventions en tant que bénévole auprès de Pharmaciens sans frontières. En 2008, vous êtes expatrié en République dominicaine, où vous vous êtes consacré à l'écriture et à la photographie aérienne. Et vous voici de retour en Périgord. Vous êtes un homme engagé et aussi un homme de partage. Vous écrivez, vous peignez, vous sculptez, et certainement que j'en oublie. On va peut-être commencer par l'écriture. Donc l'écriture a démarré dans les années 90 avec 4 pièces de théâtre qui ont été mises en scène. Si je ne dis pas de bêtises, il y a Amour et Carmagnole, La Bonne-Bonne, Un mari pour Claire, L'affaire du banc public. Pourquoi le théâtre ? Et pourquoi l'écriture du théâtre ? Parce qu'on peut jouer, vous avez aussi joué, je crois, mais pourquoi ?
Non, certainement pas, j'ai pas joué, j'ai un trac terrible et je préfère mettre en scène ceux qui veulent bien jouer. Et là, c'était avec une troupe d'amateurs, c'était même pas une troupe au départ, c'était personne. Et ça s'est passé très bizarrement en 89, il a fallu fêter l'anniversaire de la Révolution, le bicentenaire. Et donc la mairie et le comité des fêtes de Tocane m'a un peu tendu un piège en me demandant d'organiser quelque chose, d'organiser une activité pour le bicentenaire. Et comme j'avais pas beaucoup d'idées, j'y avais pas beaucoup réfléchi, j'ai parlé lors d'une réunion tardive à la mairie, j'ai parlé de théâtre. Et tout le monde a sauté sur l'idée en disant que c'était très bien, ça renouait avec une tradition, puisqu'il y avait du théâtre au début dans les années 50, il y avait une petite troupe de théâtre à Tocane. Donc me voilà cherchant dans le répertoire et essayant de trouver s'il y avait quelque chose qui s'appliquait à 89. Et puis non, au bout du compte, j'ai été obligé d'écrire une histoire de Roméo et Juliette, pendant la Révolution française. Donc, en partant du fait que ce dont je me rappelais de l'école primaire ou de l'école secondaire, c'était ce qui était arrivé, c'est-à-dire les nouvelles qui pouvaient arriver dans les campagnes profondes dans la région de Tocane. Donc j'ai pris que les grandes lignes en arrêtant la Révolution avant les massacres de Robespierre et tout ce... et toute sa bande. Donc voilà, j'ai écrit cette première pièce en 89, difficilement parce qu'on est arrivé, bien sûr, on était à la bourre, et on l'a joué pour le 14 juillet, je crois qu'on l'a joué la première fois le 14 juillet à Tocane, et puis les autres communes autour de nous n'avaient rien prévu, et donc ils nous ont demandé de venir la jouer aussi chez eux, et donc on est allé à Montagrier, on est allé à Doucha, on est allé à Selles, on est allé, voilà, dans les cantons autour.
Un grand succès.
Un énorme succès, un énorme succès, bien entendu.
Et puis, vous vous êtes remis à l'écriture encore, je vois, tous les deux ans, pendant trois autres périodes.
C'est à cause des amis qui avaient joué dans la pièce et qui voulaient absolument rejouer, parce que c'était une bonne expérience et c'était rigolo, on avait bien ri, on s'était bien amusé. Des fois, moi, j'avais piqué des colères terribles, mais bon. Et puis, donc, j'ai réécrit une autre pièce qui s'appelait La Bonne-Bonne, je crois, la seconde. Où ça, c'est un quiproquo. C'était un quiproquo.
Plutôt du vaudeville ?
Oui, plutôt du vaudeville, plutôt tourner la biche et tout ça. Et puis, deux ans après, là aussi, on s'était bien amusé. On l'avait rejoué plusieurs fois. On était allé la jouer dans des endroits autour. C'était bien, c'était sympa.
Donc, une belle période.
Oui, oui.
Puis ensuite, dans les années donc 2010, 2008 exactement, vous êtes allé vous installer en République dominicaine. Et là, vous avez écrit trois ouvrages, Tim Artemius en 2010, Lucienne en 2011 et Ce que je ferai.
Voilà, le dernier. Alors, Tim Artemius, c'est un peu bizarre parce que ça s'est passé, c'est à cause de mon fils, mon dernier fils, Gianni, qui m'avait mis au pied du mur en me disant, il avait 9 ans, et il me dit la prochaine fois, mon prochain anniversaire, je voudrais que tu m'écrives un livre.
Donc c'est grâce à Gianni.
C'est grâce à Gianni. Et ça, c'était quand il avait donc son anniversaire de ses 8 ans, et il m'a dit ça la prochaine fois, prochain anniversaire. Je voudrais un livre. Donc, bien sûr, j'avais plein de choses à faire. Je n'avais pas qu'à penser à une histoire pour mon fils, malheureusement. Donc, 2 mois avant son anniversaire de ses 9 ans, j'ai commencé à m'inquiéter parce qu'il y tenait. Il me le répétait de temps en temps. Il me disait, est-ce que le livre avance? Et moi, je lui disais, oui, dans ma tête, il avance. Et puis... Et donc, 2 mois avant, je me suis dit, bon, il faut que je me lance. Donc, j'ai commencé une histoire sur un petit garçon qui voyage dans le temps. Et voilà, c'est parti d'une drôle d'idée. C'est quand j'allais à la pharmacie, tous les matins, je passais dans un endroit qui s'appelle le Pas de l'Anglais, si vous connaissez. Et au Pas de l'Anglais, il y a un château. Et dans le parc du château... Il y a une espèce de petit temple, de mausolée, mais qui est en ruine au fond du château. Et je passais tous les matins devant, et chaque fois, pas tous les matins, mais en tout cas, j'y pensais, je me disais souvent, c'est un mausolée, ça peut faire une histoire, on pourrait peut-être partir de là pour... Voilà, mais ça faisait déjà depuis plusieurs années que j'avais cette idée-là. Et donc voilà, et à partir de là, j'ai créé le personnage de Tim Artemius, et... était un petit gamin qui traverse le temps et qui va se promener. Et ça permet, c'est le voyage dans le temps, ça permet de faire des choses et de rencontrer des personnages qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer, qu'on ne peut pas rencontrer. Ou à l'occasion d'un devoir à l'école, où on lui demande d'écrire les dinosaures, lui, il y va voir. Et il revient avec... les couleurs des dinosaures et le bruit que ça fait. Et la maîtresse n'est pas contente du tout de lui parce qu'il a une imagination bien trop débordante. Alors que c'est vrai, il l'a vu.
Vous allez nous en lire quelques pages ?
Allez, si vous voulez.
Allez, on va se glisser dans le chapitre 3 donc de Tim Artemius.
Oui, c'est le tout début, hein. C'est la première fois qu'il part. Alors, son arrivée fut brutale, c'est le moins que l'on puisse dire. Il dégringola d'un gros bloc de pierre, se retrouvant à moitié assommé dans le sable, comme un tas de vieux chiffons. Quelques esclaves se retournèrent au bruit de sa chute, mais, trop fatigués, ils continuèrent leur dur labeur. Un gardien l'aperçut et s'avança vers lui, tout en décrochant le fouet de sa ceinture. À ce moment-là, une vieille esclave se précipita et très vite mit ses bras autour de lui, autant pour l'aider à se relever que pour le protéger du garde. Le fouet claqua dans l'air surchauffé. La vieillarde lui chuchota à l'oreille. « Relève-toi, relève-toi vite, sinon gare au fouet !» Chancelant sous le soleil de plomb, ils rejoignirent la longue file qui tirait le bloc de pierre géant. Le vertige du voyage calmé, Thius écarquilla les yeux et regarda autour de lui. Il était au beau milieu d'un immense chantier. La poussière, soulevée par les milliers de pieds nus des ouvriers, lui masquait l'horizon. Il tirait la corde comme les autres et le bloc de pierre posé sur des rondins de bois avançait à pas d'escargot. Le soleil écrasant, les corps en sueur, les fouets, les énormes blocs de pierre, le vertige le reprit. Il se retourna vers celle qui l'avait secouru peu de temps avant. Elle répondit avant qu'il n'eût le temps de poser la question. « Nous sommes en Égypte autour de 2690, avant Jésus-Christ, d'après ton calendrier. » Pour tous ceux qui nous entourent, nous sommes en l'an 11 du règne de Khéops, à qui nous devons de travailler comme esclaves à la construction de sa pyramide. Esclaves, dit-il, les yeux écarquillés. Non, plutôt ouvriers recrutés de force. Et c'est presque pareil. Les pyramides n'ont pas été construites par des salariés avec des congés payés, assurance maladie et retraite garantie, mais par des milliers de pauvres gens venus, pour la plupart, des contrées sauvages de la Haute-Égypte et des pays voisins. « Regarde là-bas, le grand costaud noir, comme un boulet de charbon. Tu le vois ? C'est un Nubien. Ils sont très forts et souvent très gentils, mais ils parlent un dialecte impossible. Et celui-ci, juste bronzé avec des traces bleues sur le front et les mains et sur les mains, c'est un Libyen. Et cette femme qui porte une cruche d'eau et qui est bien belle, ma foi, ce doit être une Égyptienne de la haute vallée du Nil. Une Égyptienne et pourtant esclave ? Oh oui, presque la moitié des ouvriers ici sont Égyptiens, mais d'ethnies ou de communautés différentes. Le pharaon ne s'embarrasse pas de scrupules, tu sais. Il faut de la main-d'œuvre, alors on en trouve. Un pli en forme de T renversé apparut entre les sourcils de Thius, signe d'une profonde réflexion. Tire sur la corde, ou au moins fais semblant, sinon c'est le fouet, esclave, pouffa la petite vieille. Comment se fait-il que tu parles ma langue, chuchota Thius, épiant le garde qui se rapprochait. Ah ça, c'est un mystère. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Le garçon eut l'impression fugitive qu'elle connaissait déjà la réponse. Il ne répondit pas. Tirant mollement sur la grosse corde, Thius se posait des milliers de questions. Que faisait-il ici? Comment était-il arrivé dans ce chantier égyptien, presque 5000 ans avant sa propre naissance? Qui est cette vieille esclave? D'où viennent ses vêtements minables? Il décida d'attendre un moment plus adéquat pour avoir des éclaircissements et demanda « Quand est-ce qu'on mange ?» Elle répondit « Nous aurons droit à une soupe et une galette de pain au coucher du soleil et d'après moi, il est à peine midi. »
Voilà. Très bien. C'est vrai qu'on avait oublié de préciser que Tim, en fin de compte, il s'appelle Thius.
Oui.
Voilà. Enfin,
oui, c'est le
c'est le, la contraction de Tim Artémus. Et Tim Artémus, il a des liens avec Artémus Gordon, les Mystères de l'Ouest?
Non, pas du tout.
Non?
Non, j'ai
même
pas...
Même le nom,
peut-être la consolance, c'est venu de mon enfance où je regardais les Mystères de l'Ouest, mais non, je ne peux pas vous dire que c'est exprès.
D'accord. Ensuite, un second roman. Là, qui a aussi très bien marché et qui a été vendu parce que Tim Artémus, on peut l'acheter?
Oui, on peut l'acheter seulement en ligne sur lulu.com.
D'accord. Donc, on en revient au deuxième livre, Lucienne. Lucienne, donc, c'est ça?
Qui n'est pas tout à fait le deuxième livre.
Ah, alors, dites-moi.
En fait, c'est le premier livre. C'est le premier. Ah. J'ai commencé Lucienne. J'ai écrit les 8 premiers chapitres à peu près. Et puis, j'étais en panne d'inspiration, donc je me suis arrêté. Et ça, c'était à l'époque où j'étais pharmacien à Tocane.
D'accord.
Voilà. Et puis, après Tim Artémus, j'ai écrit donc la fin de Lucienne.
Okay. Mais donc, c'est dans l'ordre d'apparition.
Chronologie, voilà.
Donc, dans l'ordre d'apparition, nous avons ensuite Lucienne. Lucienne, c'est l'histoire d'une vieille dame, on dira simple,
non,
du Périgord.
En France, ce n'est pas les sourcils, c'est une vieille dame, mais elle est gentille. C'est une gentille vieille dame.
Oui.
Et c'est drôle d'ailleurs, quand on dit une vieille femme, ça fait tout de suite péjoratif, mais quand on dit une vieille dame ou une dame âgée, ça fait. C'est une autre. Et donc, c'est une vieille dame, oui, qui est dans un petit village qui ressemble étonnamment à Tocane d'ailleurs. Mais qui c'est sa vie de tous les jours. L'idée principale, c'était ça. Je voulais décrire la vie de tous les jours d'une dame âgée qui est seule. Et donc, c'est ce que je voulais. Je voulais parler de sa solitude, je voulais parler de plein de choses, mais de son goût de vivre aussi et de l'envie de profiter, de partager. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très... très acerbe vis-à-vis de ses contemporains. Et...
Oui, elle a un ton qui est clair, qui est direct, mais qui est aussi humoristique.
Oui, elle s'amuse bien. Elle regarde les gens du haut de ses 78, ou je ne sais plus à combien je l'ai mise. Je crois que c'est à 78 ans. Et elle regarde les gens du haut de son histoire et de tout ce qu'elle a vécu, mais c'est une histoire un peu tronquée. Et c'est cette deuxième partie qui me manquait, c'est-à-dire cette partie qu'elle a oubliée. Parce qu'en fait, c'est jeune fille, elle a oublié toute son enfance jusqu'à l'âge de 18 ans, elle n'a pas de souvenirs. Elle ne se rappelle pas de l'école, elle ne se rappelle pas de ce qui s'est passé, elle ne se rappelle pas de ses parents, ou très très peu. Et voilà. Et à cause d'un choc émotionnel à 18 ans, elle ne se rappelle pas. Voilà. Et sa vie a commencé à 18 ans réellement. Et puis, petit à petit, ben, elle se rappelle. Elle se rappelle de. À cause de chocs émotionnels aussi.
Ouais.
Mais là, à 78 ans, et à cause de nouveaux chocs émotionnels, elle commence à se rappeler. C'est un peu l'histoire, la fameuse histoire de, du coup sur la tête. Le premier vous enlève la mémoire et le second vous la redonne. Mais c'est un peu ça. C'est un peu la même chose.
Tout à fait. Donc, une histoire du terroir avec des histoires. Et troisième livre, Ce que je ferai. Donc, le premier, on dira dans l'ordre d'apparition, était dédié à votre fils, le troisième à votre épouse.
Oui, ouais, mais ils sont tous les trois dédiés à mon épouse, parce que si elle n'avait pas été à côté de moi, je ne l'aurais pas fait, je ne les aurais pas écrits. Si, peut-être Timmy, je l'aurais écrit quand même, mais non, il fallait qu'elle m'aide. Elle m'a beaucoup aidé après l'écriture, pas pendant l'écriture, mais après l'écriture. Et puis elle m'obligeait, ça m'obligeait, parce que pour Timothée Artemus, par exemple, parce que je n'ai pas fini de vous dire qu'arrivé à son anniversaire, j'avais écrit que trois chapitres. Justement, les trois chapitres, le troisième que je vous ai écrit.
Comment avez-vous fait alors?
Et non content de ça, je me suis lancé avec l'idée que je allais lui lire. Et donc, je lui lisais un chapitre tous les soirs. Mais il fallait que j'écrive un chapitre aussi tous les jours. Ce qui fait que j'étais au pied du mur et il fallait que j'écrive à chaque fois. Et que ça se tienne et que l'histoire se tienne. Et voilà.
D'accord.
C'était assez compliqué.
Donc, vous racontiez l'histoire
ma femme écoutait,
et puis après, vous alliez écrire.
Ma femme écoutait tous les soirs. Et puis, comme elle était attentive aussi... elle me disait non mais ça va pas,
ça tient pas la route.
Tu viens de dire là avant-hier, t'as dit qu'il était là, c'est pas possible, il peut pas être là. Et...
D'accord. Ok. Et ce que je ferai alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui. C'est un roman de désespoir. C'est l'écrivain qui a écrit, un écrivain débutant qui a écrit un bouquin, un peu comme moi, et qui le pense bon, et tous ses copains qui l'ont lu et toutes ses copines qui l'ont lu ont dit que c'était un bon livre, et il ne peut pas arriver à le publier. Et donc, avec sa bande de cinq amis, un soir de beuverie, ils imaginent de faire un kidnapping et d'enlever les parents de tout le staff dirigeant d'une grande maison d'édition parisienne. Mais c'est pas méchant, ils sont pas méchants. C'est pas des vrais kidnappeurs méchants, armés, cagoulés, non, non. En fait, ils montent une arnaque, ils font croire à la maison d'édition qu'ils ont enlevé les petits vieux, mais en fait, les petits vieux, ils sont partis en vacances en Italie avec eux. Voilà.
D'accord. Et là, d'autres projets maintenant en écriture?
En écriture, pour l'instant, pas. J'en ai pas. J'ai plein d'idées, j'ai plein de démarrages. J'ai écrit plein de petites nouvelles. Voilà. Peut-être les nouvelles vont en les accolant les unes aux autres, vont faire un volume de 300 pages. Mais oui, j'écris des nouvelles pour l'instant. C'est pas un roman. Il faut qu'une idée, et pour écrire un roman, il faut qu'une idée, un souffle suffisant pour en écrire 350 pages, quoi. Et j'ai un style un peu particulier, c'est que je suis très concis. J'ai horreur de délayer. Je ne sais pas le faire. En plus, je sais pas que j'ai horreur, ce que j'aimerais bien de temps en temps, mais je ne sais pas le faire. Donc c'est très concis. Il faut que j'ai beaucoup 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 d'idées. Pour arriver à faire 300 pages ou 350 pages.
D'accord. Apparemment, les livres que vous avez écrits, c'était essentiellement pour la famille, pour les amis. Est-ce que si on doit écrire pour un très large public, on a une approche différente ou...
Je ne sais pas. Sans doute, oui, parce que en fait, c'est le désir de plaire. Et le désir de plaire à un grand nombre pour pouvoir vendre beaucoup de livres et gagner 1000 fois ou 100 000 fois 1,40 €, parce que c'est à peu près ce qui revient quand on a vendu un livre. Ça, à l'écrivain, ça lui rapporte 1,40 € par bouquin. Ce qui fait que, donc, il faut plaire au maximum de gens. Et pour plaire au maximum de gens, il faut se renseigner sur la mode, sur les lignes éditoriales des maisons d'édition qui voudront bien, voilà, se renseigner auprès des libraires et de savoir ce qui se vend, ce qui se vend pas, voilà, parce que c'est des modes comme la musique, comme les chansons, comme machin. Et souvent d'ailleurs c'est aussi volatile. Je pense qu'un livre c'est aussi encore plus volatile qu'avant. Et c'est pour ça que j'ai des difficultés pour lire sur une tablette électronique. Mmh. Ça ne me convient pas parce que ça n'a pas d'objet. Ce n'est pas un objet. C'est pas quelque chose.
Il n'y a pas le toucher. Il n'y a pas l'odeur.
Non, il n'y a pas l'odeur. Il n'y a pas le toucher. Il n'y a pas cette espèce d'émotion que ça dégage, parce que un livre, c'est pas qu'un livre et qu'une histoire. C'est aussi le travail de quelqu'un. C'est aussi les idées de quelqu'un, l'intimité de quelqu'un qui a écrit et qui a sué des fois sang et eau pour écrire une histoire qui tient la route. Mais bon, moi, je dis pas ça parce que c'est pas mon cas.
D'accord. Mais vous êtes par contre quelqu'un qui avait eu de multiples vies. Quand je dis ça, je vais en arriver au côté. Maintenant, vous avez un côté aussi artiste plasticien. Vous dessinez, vous peignez, vous faites de la sculpture.
Oui, mais non, ne me faites pas passer pour un artiste à plein temps. Je suis un amateur.
Ah, mais oui, vous êtes un amateur.
J'ai toujours été un amateur, mais dans tout. Pas dans mon boulot, bien sûr, pas dans mon métier, il vaut mieux pas. Mais par contre, un amateur, j'ai fait de multiples sports et dès que j'arrivais à être bon dans quelque chose, ça me suffisait. Je changeais de sport et je faisais un autre. Et c'est pareil pour l'art, c'est pareil pour la peinture, c'est pareil pour l'écriture, la sculpture en ce moment, parce que je fais de la sculpture, mais je fais pas de sculpture, je fais des objets qui sont rigolos et qui sont agréables à regarder.
Mais il y a du travail malgré tout. Racontez-nous, expliquez-nous ce que vous faites.
Ah, je récupère des vieux morceaux d'outils agricoles anciens, cassés bien sûr, des gros boulons, des vis tordues, tout ce que je peux trouver chez les paysans. La plupart du temps,
c'est du métal.
Et ensuite, je les assemble pour que ça fasse un objet, un animal, un soldat. Non, pas un soldat, mais plutôt un berger ou un gardien ou une sentinelle. J'ai fait toute une série que j'ai appelée des sentinelles parce que ils sont pas réellement armés, c'est pas des gens méchants.
D'accord. Voilà. Et d'autres projets.
Je ne peux pas vous dire. Demain, peut-être, j'aurai un grand projet. Là, j'ai commencé hier, j'ai recommencé à faire du roller, à faire du patin à roulettes.
Très bien. Ben, on a été ravis de vous recevoir, un homme à multifacettes. C'est vrai qu'on aurait pu également peut-être parler de... Vous avez fait de la photo aussi quand vous étiez en République dominicaine. Mais oui. C'est vrai que vous n'êtes pas artiste, vous n'avez pas cette fibre.
Non. Mais je volais. Je ne faisais que voler. Je faisais du paramoteur et donc j'en profitais pour photographier les plages que je voyais en dessous de moi.
D'accord. Voilà. Photographe.
Et pilote.
Partage d'images.
Pilote. Voilà, maintenant, c'est un métier qui n'existe plus. Pilote de paramoteur et photographe, mais ça n'existe plus. Il n'y a plus besoin maintenant, puisque maintenant, il y a les drones qui font le travail bien mieux que nous. Mmh. Voilà. Voilà. Mais la vie passe.
La vie passe et vous avez su marquer le temps dans vos livres. Vous avez transmis des histoires et des époques. Merci beaucoup, Jean-Michel.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Et au plaisir de vous retrouver.
Merci beaucoup, ça sera avec plaisir. Au revoir.